chez moi, y'a papa, papa. Et les poteux, y'a papa, papa, y'a papa, papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et les filles, bijou, chouchou, liti, gata, coucou, zizi, mimi, papa, y'a papa, papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, les coupous, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un pain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et t'es des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dit tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dit Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et bonsoir, il est 22h, on est dimanche, sur Radio Canu 102.2 ou radiocanu.org. Je me sens observé. C'est la causerie, comme d'hab, le dimanche à 22h, il y a des brouettes, pour voler une expression de Fab. Et c'est Louli pour presque pour la première fois bis à la technique. Et on a aussi Miracle Emma. Bonsoir.
Bonsoir.
Miracle, c'est un truc bizarre quand même.
La semaine dernière.
C'est parce que je suis comme un miracle, c'est ce voilà. Que tu veux dire. Mais très oui. Bien, merci.
Ah, donc tu brilles dans le noir, en fait,
voilà.
Ça.
Ta résurrection a été. Voilà, ça, elle est effective.
Oui,
ça
c'est
y est,
après Pâques, vraiment. Voilà.
Voilà, tout à fait. On est en public puisqu'on a notre auditrice
favorite.
Funky Sexy Town.
Bonsoir.
Bonsoir, Clara. On a un spécial guest qui s'appelle.
Nas, bonsoir à tous.
Voilà. Nas comme le rappeur. Ouais, ça fait, ouais, c'est bientôt l'anniversaire de son disque, Illmatic. Voilà.
Et, super.
Oui, bah, c'est important. Il faut éteindre le portable. Nas qui présentera bientôt une émission à la 1C4, Inch'Allah.
Ouais, et une émission sur les jeux vidéo et l'univers geek, c'est pour ça qu'il n'éteint pas son portable à la radio. C'est la seule
moi
raison.
Non plus d'ailleurs. De toute façon, j'ai pas d'amis. Et Fabien.
Ouais, salut. Oh, bonsoir, enfin, ou comme vous voulez en fait.
Voilà. Et on commence par saluer Jean-Yves déjà,
ouais.
Qui n'est pas là ce soir.
Et préciser qu'on va passer pour la première fois, pour la deuxième fois, parce que l'autre fois c'était un autre montage, on va passer un reportage dans l'émission, donc on espère que ça vous plaira, et si ça vous plaît pas, ben, vous nous le direz. Et on nous le dit où? Sur le blog. Et Emma, elle est morte de rire, donc ouais, elle ne pourra pas dire le blog. Et donc sur le blog, et le blog c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie, tout attaché. Voilà. Louli, quand t'auras fini, on peut y aller.
Parce qu'on me montre du doigt, les gens doivent savoir.
D'accord.
C'est la fille.
Et bien justement, Emma, c'est à toi.
Oulala, là là, mais là, deux secondes.
Non, mais alors c'est pas à toi tout de suite, alors je vais te dire autre chose.
L'heure est grave.
Ça va être dur.
Pourquoi elle rigole?
Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je trifouille mes moustaches, j'ai le droit, t'es jalouse, tu peux pas faire pareil.
Bon, on y va.
Les tirs sont merveilleux, oui.
On y va, parce que quand même, on a des auditeurs et on est un petit peu tard, ne les perdons pas.
Oui,
quand même.
Oui, oui.
Est-ce que c'est bon pour toi?
Oui, c'est bon.
Ouais, bah c'est parti.
Attendez, je mets mes lunettes parce que en fait, je suis une myope qui ne s'assume pas et je n'y vois rien. Ah, ça va mieux. Le monde s'éclaire. Alors, oups. Moi, ce soir, en fait, je voulais causer d'un bouquin qui s'appelle Is a Stud, She's a Slut. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction française, enfin, éditée en France. La traduction complètement littérale, ça serait C'est un cadeur.
Cador, ouais.
Un cador. Ouais. Moi, c'est un mot que j'utilise pas, mais apparemment, voilà, ça s'utilise. C'est une salope, hein. Là, il n'y a pas d'autre traduction. C'est un bouquin, en fait. Donc, l'auteur, c'est Jessica Valenti. C'est une auteure, mais surtout une blogueuse qui est assez connue. Elle est américaine. Elle a fait des études, en fait, sur les femmes et des études de genre. Et en fait, elle est assez connue parce qu'elle a édité un blog en 2004 qui s'appelle Feministing. Et comme son nom l'indique bien, c'est un blog en fait qui parle des relations hommes-femmes, des relations de pouvoir, de la question du genre et en fait de ce qu'elle appelle le sexisme ordinaire. Et en fait, elle a sorti un livre donc en 2008 qui s'appelle donc pour le titre exact, c'est Is a Stud, She's a Slut and Over and 49 Over Double Standards Every Woman Should Know.
Et là, tu nous le fais la traduction.
Alors, et donc, la traduction, donc, c'est un cador. C'est une salope. Et 49 autres doubles standards que chaque femme devrait savoir. Et donc, c'est édité par Steel Press. Et Femme me disait qu'il y avait une édition, une traduction qui existait au Canada.
Ouais, chez Lux Édition, a priori. Mais je sais pas si elle existe ou si elle va exister, mais en tout cas, c'est en cours, quoi.
Ok. Donc voilà, après, c'est surtout si vous avez envie de le bouquiner, ça va surtout être par Amazon et d'autres sites comme ça, parce que moi, c'est un livre que j'ai pas trouvé. Qui est plutôt rare à trouver, donc voilà, peut-être privilégier plutôt les voies de l'internet. Alors en fait, le bouquin, comme le titre l'indique, il part du principe de ce qu'elle appelle des doubles standards. En fait, c'est des mots qu'elle met en opposition sur des phrases en fait, qui sont un peu communes et surtout admises par la société. Et donc en fait elle s'attaque aussi bien à la sphère intime, la sphère sexuelle dans un couple, la sphère sociale et la sphère professionnelle. Et donc elle parle en fait de ce qu'on appelle du sexisme ordinaire. Et en fait c'est tout simplement des phrases toutes bêtes balancées comme ça qui mettent en opposition en fait les hommes et les femmes. Et en fait qui sont complètement révélatrices de choses intériorisées, d'inégalités. Et donc par exemple, alors voilà, j'en ai quelques-unes que je vais faire anglais et français. Donc men get angry, women get PMS. Donc en gros, les hommes se mettent en colère, les femmes ont leurs règles, hein, c'est ça, ont leur menstruation. En fait, c'est une grosse référence à la femme hystérique. On a toujours dit en fait que les femmes, parce que elles étaient menstruées, étaient des hystériques, alors que les hommes auraient des petites poussées de colère à la rigueur, mais c'est tout ce qu'ils ont. Par exemple aussi dans les bonnes phrases on a is a Romeo, she's a stalker. Donc en gros lui c'est un Romeo, un Don Juan, mais elle devient une harceleuse. He's tough, pardon, she's a tomboy. Donc il est dur, elle c'est un garçon manqué. He's childless, she's selfish. Donc il est sans enfant, elle est égoïste. Et donc voilà, en fait on a plusieurs comme ça aussi sympathiques les unes que les autres. Et donc il y en a une cinquantaine. Et comme je disais, ça touche vraiment toutes les sphères. Et en fait, ce qui est très sympa dans le bouquin, alors donc, en fait, elle donne la phrase et après, elle explique généralement par rapport à son expérience personnelle ou une expérience à laquelle elle a assisté. Et en fait, ce qui est vraiment sympa dans ce bouquin, c'est que c'est des choses en fait dont tout le monde peut, enfin, où tout le monde au moins a assisté à une scène, parce qu'elle, enfin, elle, ce qu'elle explique, alors pas dans le bouquin, mais dans son blog, un petit peu quand même dans la préface du bouquin, c'est que le problème du sexisme ordinaire, c'est qu'il est admis. Et que y a certaines phrases où effectivement ça fait appel à des notions de genre, des notions un peu plus poussées, on va dire entre guillemets, bien sûr sur le féminisme, mais qu'il y a d'autres choses comme typiquement lui c'est un Don Juan, enfin un homme qui va avoir des amantes et tout ça, ça va être plutôt un Don Juan, alors qu'une femme, attention, qui a des amants, c'est tout de suite une salope quoi. Et le souci en fait qu'elle disait, c'est que le problème, c'est que c'est souvent admis bien sûr majoritairement par des hommes, mais que c'est aussi admis par des femmes. Et enfin, c'est quelque chose qu'elle explique tout le long du bouquin en disant qu'en fait, le problème, c'est que les femmes continuent à perpétuer ce genre de choses que moi, je pensais qu'on n'entendait plus du temps, enfin, qu'on entendait un peu du temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents, mais apparemment, il y a des personnes qui continuent à balancer des phrases comme ça. Et le problème, c'est que c'est des phrases qui sont encore créatrices d'inégalités, quoi.
Mais tu, de toute façon, tu le vois, parce que avec la phrase, quand il y a quelqu'un qui fait, qui conduit mal devant, t'as tout de suite 99% des gens qui disent « Ah bah c'est une femme
ouais, !»
ou « Oh, qu'est-ce qu'elle conduit mal, celle-là » Et en fait, tu vois que c'est intériorisé, quoi. C'est en gros, une femme, ouais, ça sait pas conduire. Mais ou même...
monsieur avec des cheveux longs, tout ça.
Ou même dans le milieu professionnel, t'entends « Ah bah si on avait un mec comme chef, ça se passerait pas comme ça !» Alors que c'est juste débile, parce que... Enfin voilà, mais c'est des choses qu'on entend couramment.
Et inversement aussi, hein, si je puis me permettre. Quand on dit oui, si les femmes dominaient le monde ou je sais pas quoi, tout serait doux et machin.
Oui, carrément. Oui, et puis le gros souci, c'est qu'en plus, c'est basé sur des généralités. Et moi, la première, hein, j'ai déjà entendu ce genre de personnes, enfin de femmes qui balancent de conneries en disant, par exemple, qui transforment une expérience personnelle en une expérience, on va dire. Pas de groupe, mais sur une énorme généralité sur les hommes, et qui vont dire ah mais les, alors moi ma préférée, je vais la citer, c'est les hommes sont par nature des infidèles. C'est ma favorite.
C'est l'époque des Flintstones, ouais. la famille Pierre à feu.
Moi je l'adore, c'est là, parce que alors elle fait appel à plein de trucs que je déteste. Alors déjà c'est ce serait dans les gènes. Alors ça c'est magnifique, parce que alors généralement c'est pas des gens qui ont fait des études de sciences qui balancent ce genre de trucs. Moi c'est ce que j'appelle de l'espèce de philosophie de comptoir avec un pastis et quelques cacahuètes balancées au PMU du coin et blanc. Et enfin voilà, donc déjà le rapport au génétique, mais c'est un truc complètement dangereux. Alors moi je suis peut-être naïve et tout ça, mais j'aime croire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, surtout du point de vue génétique. Bien sûr qu'il y en a au niveau hormonal et tout ça, mais alors je vois pas pourquoi, surtout des choses qui seraient à la rigueur et même pas du caractère, mais qui seraient de l'acquis et tout ça serait, devient de l'inné en fait. Et donc en fait, tout au long du bouquin, on voit ça, et autant il y en a certains, comme je disais, qui sont plus dans la vie professionnelle et qui sont un peu plus compliqués à expliquer. Par exemple, voilà, complètement celui qui fait appel à la maternité fait vraiment référence à plusieurs choses, qui soient en fait le rapport homme-femme, mais aussi le rapport la sphère sociale et cette espèce de pression sociale. Autant il y en a d'autres en fait qui sont vraiment en fait, on va pas l'apporter tout le monde, mais vraiment que tout le monde a entendu une fois. Et après, en fait, elle donne aux 50 des petites phrases, elle donne des conseils. Et en général, c'est des conseils qui sont plutôt sur comment éviter le sexisme et comment éviter en fait de formuler des phrases comme ça. Par exemple, elle parle aussi beaucoup de tout ce qui est marketing genré, comment éviter d'élever son enfant. C'est surtout en fait par rapport à une espèce d'éducation. Alors pas attention dans l'éducation un peu bateau et dans tout ce que le terme éduquer est de plus mauvais, mais voilà, c'est comment arriver à justement éviter ce sexisme ordinaire par exemple éviter effectivement d'acheter des objets, enfin des jouets genrés pour ses enfants, à comment éviter en fait de donner des termes du style salope, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est un bouquin qui est assez bien fait. Moi quand même j'ai un peu une petite critique, c'est déjà ça commence dans le titre qui m'énerve beaucoup, c'est en fait Every Woman Should Know, et pour moi je suis pas du tout d'accord, ça me choque complètement que ce soit que toutes les femmes devraient savoir. Pour moi ce serait que tout le monde devrait savoir, parce qu'encore une fois ce bouquin, je suis sûre que c'est, j'ai pas fait les stats hein, mais ça doit être acheté 80% par des femmes et peut-être 20% par des hommes, et encore je pense que c'est peut-être des mecs qui volent le bouquin à leurs copines vite fait. Mais du coup, en donnant un titre comme ça, c'est pas très porteur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, en fait... et c'est encore une fois dire... C'est bien hein, qu'il y ait un bouquin qui soit sorti comme ça, et qu'on puisse l'acheter et se dire « Ah bah oui, tiens, encore une double phrase, je m'en suis rendu compte. » Mais c'est pas qu'aux femmes qui s'adresse le bouquin, et c'est pas qu'aux femmes de savoir ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment à tout le monde, et voilà, encore plus, quoi.
Ça peut aussi venir de la culture anglo-saxonne, ouais, en fait, enfin, qui est plus... qui fait beaucoup de titres comme ça, en fait, même si le livre s'adresse à tout le monde, ils mettent des titres un peu... parce que souvent, quand on voit les traductions, d'ailleurs, de livres livre américain ou anglais en français, le titre est changé. C'est-à-dire qu'on transforme ce que chaque femme en tout le monde devrait savoir.
Ouais.
Parce que chez nous, ça parle plus dans l'universalisme qu'aux États-Unis ou en Angleterre.
Mais en fait, après, je ne sais pas s'il y a ça aussi, mais je pense que c'est aussi un peu une façon ironique de présenter à d'autres titres, parce qu'on connaît aussi toute la vague aux États-Unis qu'il y a sur les 50 recettes de cuisine que chaque femme doit savoir. Et il y en a plein des comme ça, mais c'est quand même une horreur et ça désigne bien dans la société dans laquelle certaines personnes vivent là-bas, quoi. Et surtout les titres qui sont édités. Donc je me suis posé la question si c'était pas ça aussi un peu un petit clin d'œil, peut-être une petite référence. Enfin, j'espère en tout cas.
Les 50 choses que la bonne ménagère doit savoir.
Exactement, mais c'est vrai.
Le livre à offrir pour la fête des mères.
Vite, c'est bientôt.
Mais par contre, je sais pas si tu as vu Emma, mais c'est à Paris, je crois, il y a un ou deux jours, il y a des gens qui ont fait un espace anti-relou.
Ouais, anti-relou sur le harcèlement de rue, un espace un peu safe, avec des pancartes avec des bons slogans, du style mon corps n'appartient pas à la voie publique et tout ça.
Ouais, justement, parce que dans le reportage que j'ai lu sur cet événement, il parlait de ce livre. Donc c'est pour ça que ça m'a fait, en disant justement que c'était un courant qui arrivait et qui est une forme de ce qui s'appelle le féminisme d'attaque. J'adore quand les journalistes hommes écrivent sur les féministes, c'est toujours très drôle. Donc il faut croire qu'il y a un féminisme d'attaque. Et plutôt, il y a un féminisme mou, si je sais pas.
Ouais,
ça, c'est étrange.
C'est ça.
Non, mais par contre, ce qui était drôle, c'est que le journaliste, il était choqué, par exemple, qu'on trouve choquant, qu'on puisse dire, ah oui, mais bon, une femme, ça conduit moins bien qu'un homme. Et moi, je trouvais ça qu'en 2014, on a un journaliste de Libération, en l'occurrence, qui puisse écrire une connerie pareille, c'est un peu énorme, quoi. Mais voilà, mais ça prouve que y a une grosse utilité à ce genre de livre, quoi.
Ouais, mais non, mais moi je le crois, et vraiment, ce que je disais, en fait, c'est vraiment, c'est encore pour redire, mais c'est, enfin, le sexisme ordinaire, ça porte bien son nom, parce que c'est des choses au quotidien, en fait, et le gros problème, c'est que c'est souvent de l'ordre de l'acquis et de l'ennemi, et que c'est souvent de l'intérioriser encore pire, et que on retrouve des phrases un peu bateaux comme ça, et moi je sais que c'est des choses généralement sur lesquelles je rebondis en disant mais vous vous rendez pas compte que ça crée des inégalités et qu'on peut pas par exemple combattre l'égalité des salaires et puis après balancer ce genre de conneries en disant les hommes et les femmes sont pas faits pareils et puis certaines choses sont admises parce que c'est un homme et certaines, enfin autres choses ne sont pas admises parce que c'est une femme. Et en fait c'est vraiment un combat déjà de vocabulaire, c'est pas la première fois qu'on le lit dans l'émission, mais voilà, sans féminiser tous les mots, mais effectivement peut-être qu'arrêter de dire fils de pute ou des choses comme ça, ça a de l'importance, mais c'est surtout aussi se poser des questions sur l'emploi de ces espèces de... C'est même pas des expressions, quoi, c'est des vieux trucs qu'on a balancés, des clichés, des stéréotypes qui sont infondés et tout ça, et voilà, juste un peu s'interroger sur ce genre de phrases.
Est-ce que tu peux nous redonner le titre et l'auteur?
Mais ouais. Alors l'auteur c'est Jessica Valenti et le titre c'est Is a Stud, She's a Slut.
C'est cool.
Voilà.
Un peu de musique.
Voilà, du coup on fait quoi? On se met un peu de musique.
Allez.
Avec une vraie fille.
Ouais.
3, 2, 1, c'est parti.
Ouais, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est la causerie. On vient de s'écouter Joan Jett avec Bad Reputation.
C'était bien.
Ouais. Et j'adore le technicien ce soir. C'est,
oui,
c'est précis tout ça.
Ouais, c'est précis, c'est fluide, c'est
il
bien.
Il mérite une augmentation. Ouais.
Bah, juste, on a oublié de dire qu'on a un mail aussi. C'est lacausericanu@gmail.com. Voilà. Oui. C'est juste pour le recaser.
Et le blog.
Et le blog. Mais je l'ai déjà donné, mais je le redonne. Alors oui, c'est blogs au pluriel. radiocanu.org/lacauserie et dire que le streaming ne marche toujours pas mais qu'un jour il marchera.
Ah bon, on peut peut-être faire un appel.
Oui, ah oui.
Nos amis les geeks. Ah bah non.
Non, alors amis geeks, mais vraiment level 10, s'il te plaît. Tu connais ce petit pingouin très sympathique qui s'appelle Linux et tu sais te servir d'Ubuntu? Eh ben,
on a besoin de toi.
Voilà, on est désespérés, s'il te plaît. Même nos compétences réunies n'y arrivent pas, ne viennent pas à bout de cette bête. Et voilà.
Donc, si tu veux passer mardi à Canu entre 19 et 20 heures, il y aura du monde pour nous filer un coup de main, ce sera cool. Voilà.
Voilà.
J'ai fait l'appel total.
On lui offrira du pchit coca.
Pchit orange.
Pchit orange, voilà.
Eh ben, donc comme je disais tout à l'heure, on va passer un reportage maintenant, mais il faut que je le présente, sinon on n'a pas trop le droit de le passer. Donc, le reportage s'appelle Speculum Party. C'est un reportage sur le MLAC. Vous verrez ce qu'est le MLAC, ça sera dit dans le reportage. C'est un reportage qui vient d'Arte Radio et c'est de Nina Almberg et de Sarah Monimar. Pardon. Voilà, et ben je vous laisse écouter, on se retrouve après.
En 73, je me suis retrouvée enceinte. J'étais très jeune, j'étais pas majeure. Je me rendais pas bien compte, je prenais la pilule avant, mais c'était une pilule que ma voisine du MLF me ramenait d'Angleterre, parce qu'en tant que mineure, mes parents étant très très traditionnels, ça a été difficile. C'est cette voisine qui était au MLF qui m'a permis de me faire avorter, et par la méthode Karman.
Dans les maisons, les bureaux, les usines, dans les salons, les chambres et les cuisines, laissant les gosses, le boulot, le ragoût, les mères, les filles se liguent contre nous.
Après, j'ai gardé contact avec toutes les amies du lycée, enfin toutes ces, tous ces gens avec qui on militait, et on a monté un petit groupe de parole, mais aussi on voulait être actives, c'est-à-dire que pas seulement parler entre nous, mais vraiment d'agir sur, sur nos vies, et essayer d'aider les gens qui s'étaient retrouvés dans la même situation que moi, comme moi j'avais été aidée.
Restez nos petites chéries, nous resterons vos petits maris. Allons, soyez bonnes filles et sauvez la famille.
Ouais, c'est un peu faux. Et donc, l'avortement, les femmes le faisaient par elles-mêmes, dans des conditions difficiles. Beaucoup étaient stériles après, ou bien beaucoup, il y avait encore beaucoup de morts. Enfin, voilà. Donc, c'était quelque chose qui me révoltait beaucoup, qu'on puisse pas décider en tant que femme d'avoir des enfants quand on voulait. Voilà.
Chéliane, bon, je vous ouvre. Deuxième étage.
Et en 73, c'était le moment où il y avait une manifeste des 331 médecins qui avaient dit oui, nous avortons.
C'est bon ?
Allô le MLAC, bonne nouvelle. Il paraît qu'enfin c'est voté. Cette fois on la tient, la loi Veille. Les femmes vont pouvoir avorter. Il y a eu à ce moment-là le vote de la loi. Et l'application était très lente et il y avait beaucoup de réticences. Par exemple, sur 1000 centres hôpitaux qui étaient susceptibles de faire des avortements, il y en avait peut-être 300 qui le faisaient.
Hello.
Hello.
À Aix, il y avait un groupe MLAC qui avait continué à pratiquer des avortements même après le vote de la loi, qui s'est trouvé inculpé. Et donc, il nous a demandé en soutien, le meilleur soutien qu'on pouvait leur apporter, c'était de reprendre la pratique.
Hello.
Salut, Raphaël. Désolée hein, pour le retard.
Bonjour, Catherine.
Il y a Michel qui s'est caché.
Sors du boulot, j'ai pas de bus, j'ai pas de bus. Mais bon.
C'est pas grave, t'es là.
Bonjour. Je me suis pas maquillée.
Oh. Alors, le MLAC, ça veut dire Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Moi, je l'ai vécu d'un point de vue d'un mouvement. et de, j'étais pas d'accord avec le fait qu'il y ait une tête pensante ou même quelques personnes au niveau national qui, par contre, ce qui était très important, et c'est peut-être ça dont tu parles, c'était la coordination. Voilà, c'était des collectifs. Et en plus, là où ça a commencé, enfin où il y avait un problème, c'était que le MLAC en tant qu'institution n'était pas d'accord avec le fait qu'on ait une pratique illégale. Or, il y avait des et les collectifs étaient différents. Donc c'est un mouvement, au départ.
Ça ne me posait pas de problème de faire des choses illégales, parce que, voilà, on avait raison. On a constitué le groupe, on était assez nombreuses. Hein. Moi, je pense qu'on était presque entre 15 et 20. Puis il y avait des femmes qui avaient déjà pratiqué des avortements avant la loi, et qui nous ont appris, celles qui n'en avaient pas fait, et on pratiquait les avortements une semaine sur deux. Quand on était de semaine où on faisait la pratique des avortements, on faisait une première réunion préparatoire, on expliquait, on montrait la valise, on expliquait ce qu'on allait faire, et on se revoyait une autre fois dans la semaine pour faire l'avortement, soit chez l'une des femmes, soit chez l'une d'entre nous, si c'était pas possible chez la femme. Et ensuite, on faisait une troisième réunion pour voir si ça s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu de complications, etc. Et on parlait de contraception à ce moment-là aussi.
Voilà. Et voici la valise dans d'époque. Un petit tendeur pour la tenir encore, parce que elle a beaucoup vécu, beaucoup voyagé. Dans le métro, chez les unes et chez les autres. Voilà.
Quand on arrivait avec la valise chez elle, on commençait par faire cette piqûre pour éviter le choc vagal. Et ensuite, la femme s'installait sur la table. Donc, elle était entourée par les copines qui ne faisaient pas, qui ne pratiquaient pas l'avortement, qui étaient là pour le soutien psychologique et pour l'entourer. Voilà. Et puis, sur une petite table à côté, on disposait tout le matériel stérile, on ouvrait les boîtes, on se lavait bien les mains. Et
on avait les compresses stériles, la petite brosse à ongles. Il reste des petits flacons qui servaient pour les piqûres.
On commençait ensuite par mettre le spéculum. Ensuite, on prenait la pince Pozzi. On passait le col pour éviter, au moment où on passe les bougies, que le col recule. Hein.
On a les petites lampes de poche, les disques pour les voies de stationnement du voiture qui sert à calculer l'âge de la grossesse en fonction du retard de règles.
Et ensuite, on prenait toute une série de bougies, les unes après les autres. On dilatait le col jusqu'à une taille légèrement supérieure à la canule souple qui allait servir à faire l'aspiration. On prenait la canule qu'on mettait au bout du tuyau qui était relié au bocal, où on allait faire un peu de vide. Et on commençait un petit mouvement le long des parois pour décoller toute le placenta, toute la petite poche.
Ensuite, il fallait aspirer ce qui avait été décroché. Avec un manomètre, on vérifiait la pression qu'on voulait pour faire une légère aspiration et pouvoir aspirer ce qui avait été décroché avec la canule, avec cette pompe à vélo Tornade.
Donc on retire la canule, on défait la pince de Pozzi, on enlève le spéculum et à ce moment-là, l'avortement est terminé. La femme se lève et tout va bien, on peut prendre un bon thé ou manger un bon gâteau.
Bon, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour.
Nous sommes réunis pour briller en réparation en raison des innombrables avortements volontaires qui ont lieu en France et dans le monde. Nous dirons le rosaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Moi, j'aimais bien faire ça. Bon, bien sûr, les avortements, c'était moins évident parce qu'il y avait quand même toujours un peu de la peur, quand même, un peu du risque,
un peu de douleur,
et puis de douleur, et puis la femme qui, pour qui c'était quand même jamais très facile. Enfin, la femme, par exemple, qui aurait bien aimé le garder, mais qui pouvait pas, ou des trucs, ou que c'est parce qu'elles en avaient très envie, mais que leur mec les avait largués, je sais pas quoi, une femme qui était mariée, qui pensait qu'elle était stérile, et elle a un amant, et pof, elle est enceinte. Alors, à la fois, elle est super contente d'être enceinte, et puis c'est l'amant, donc elle peut pas, enfin. Bon, donc des situations. Puis après, des femmes qui nous en voulaient aussi. Même si ça s'était bien passé, ou qui changeaient de trottoir. Il y avait aussi des femmes qui étaient hyper catho, qui donc étaient persuadées qu'elles tuaient un bébé.
Alors les femmes qui venaient, elles venaient de tout milieu. Par exemple, je me souviens d'une femme tunisienne qui travaillait dans le sentier et qui était... c'était son contremaître qui l'avait séduite et caressée. Et il avait une éjaculation juste à l'entrée du vagin. Donc elle était enceinte en étant vierge. Et elle voulait absolument garder cette virginité. Mais là, on ne lui a pas fait pour le coup. Mais elle était venue à la permanence parce qu'elle n'osait pas aller à l'hôpital. Elle ne savait pas trop comment faire. Et on l'a accompagnée cette fois-ci au Lila. Ils lui ont fait un avortement avec un spéculum de vierge pour qu'elle puisse... quand même avoir une vie en Tunisie, trouver un mari et garder sa virginité. Je me souviens aussi d'une femme qui était enceinte et qui était la compagne d'un curé, par exemple.
Comme ce combat pour la vie est un combat spirituel, un combat non pas contre les hommes, mais contre les esprits du mal qui trompent les intelligences, nous allons commencer notre prière par invoquer le prince des anges, Saint-Michel Archange.
Donc il y avait ces femmes-là qui venaient comme ça, elles, par nécessité. Et puis il y avait des femmes qui venaient par choix. Parce qu'elles savaient que la façon dont on pratiquait était... enfin, c'est pas de la prétention, hein, mais on le faisait mieux que dans certains médecins dans les hôpitaux. On se réunissait en... place des Fêtes, il y avait une maison qui appartenait à la société de rénovation de la place des Fêtes qu'ils nous prêtaient.
Des bouffes collectives énormes, des grandes tables. Puis il y avait tout le monde du quartier qui venait manger, aussi bien les clochards que les gamins qui ne voulaient pas aller manger chez eux.
Ouais.
C'était drôle.
Ouais.
Tu vois, c'était aussi un endroit qui attirait les gens qui n'avaient pas envie d'être dans le moule. Alors, c'était peut-être l'utopie. Avec les mecs dans la maison, c'était quelque chose aussi. Ça tournait. Ouais, tout était permis. Au niveau sexuel, tout ça, c'était. Un jour, tu étais avec sa copine qui faisait la gueule, mais qui allait avec un autre mec. C'était que des histoires de cul pas possibles. On pouvait tout faire, tout était permis. On était nombreux, on était jeunes, on était beaux. On avait tous eu une éducation. Moi, personnellement, j'avais l'impression que mes parents s'étaient fait chier à bien m'éduquer et puis que tout pétait, tu vois, que je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie et qui étaient des trucs utiles, qui me permettaient de me construire. On pouvait s'examiner, on pouvait s'avorter, tout était possible.
Elle va chercher ses lunettes, moi aussi. Tiens, donne-moi ça. Ça, c'est une consultation collective. Ça, c'est deux femmes qui viennent avorter. Et ça, c'est une pose de stérilet.
C'est la pose de stérilet
de Chantal.
De Chantal.
Donc.
Les feuilleuses rigolades.
On faisait les avortements.
J'ai retrouvé cette salopette.
C'est une narration la plus haute.
Attends, ben oui, mais parce que quand même.
Oui, on vieillit, mais les salopettes restent.
On avait toutes les mêmes
salopettes. Je me souviens, on allait acheter.
On a niqué combien de machines à laver dans les teignants. On les achetait blanches pour les faire des violets.
Regarde là, j'adore. Ah ben c'est Marie là.
Oui, c'est chez Marie, oui. Mais toi, par exemple, celle-ci, je les trouve...
tiens, ce qu'on vous disait par rapport, tu vois, ça, c'est typique, avec la lampe de poche.
Oui, puis, elle montre avec le miroir. Bon, on commence l'avortement, elle lui montre le spéculum a dû être mis, elle lui montre le col de l'utérus avec le miroir.
Et là, on a vraiment l'impression qu'on regarde. Enfin, c'est pas un regard médical, quoi. C'est comme si on était devant un tableau.
Là, c'est là encore plus. C'était pas pratique par terre.
Non, c'est pas pratique.
Quand on disait qu'on se mettait à table, c'était...
C'était un moment où il y avait beaucoup d'effervescence, les gens militaient beaucoup. En fait, c'était un peu une réaction aussi au mouvement de gauche ou d'ultra-gauche d'où beaucoup de femmes étaient sorties. Enfin, pas que de là, mais où il fallait attendre le grand soir avant de pouvoir dire il fallait à la révolution et après on verrait la situation des femmes. Alors que là, on se disait on va changer la vie maintenant.
Bon, on était belles.
Hein. C'est ce que disait Michel. On n'est pas tellement changé. Hein.
Moi, ça me rappelle surtout les relations qu'on avait entre nous et avec les femmes, quoi. Le sentiment qu'on avait d'être... de chaleur, de partage. De partage et de
toucher.
Voilà. Enfin, par exemple, elle... Et elles, c'est des amies, en fait, qui n'étaient pas du tout homme-là, qui n'avaient rien à voir avec ça, qui ont, tu vois...
Qui se trouvaient là.
Non, qui se trouvaient... Qui se trouvaient...
Vous êtes en visite,
c'est des amis. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas des tea parties, des spéculums,
Ah oui, il reste une ligne.
Mais là, ils sont pas nombreux. Là.
C'est toujours pareil.
Une dizaine de vieillards cacochis, voilà. Eux-mêmes qui se cachent derrière. J'ai envie de les frapper.
Je pense qu'on a été le dernier groupe à pratiquer des avortements et avoir cette action. Et là, on a commencé à avoir plus des problèmes de techniciennes. Et on s'est dit que peut-être là, il fallait qu'on arrête. Donc on a arrêté en 80.
Parfois, ils viennent aussi quand on n'est pas là.
Au fur et à mesure que le temps est passé, les actions qui ont été menées pour forcer les hôpitaux à mettre en place la loi et à le faire, on va dire, dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire méthode Karman, en douceur, etc., avec ou sans anesthésie, suivant le désir des femmes, ça s'est mis en place petit à petit, puis les centres d'orthogénie ont été créés... Ça a été difficile d'abandonner parce que c'est un pouvoir qu'on avait acquis et que cette pratique simple, elle se retrouvait dans un milieu hospitalier avec la lourdeur de l'hôpital, etc. Toutes les années 80 jusqu'en 90, c'était difficile parce que c'était une époque un peu différente et tout ce mouvement associatif a été un peu étouffé par... à cette période et c'est plutôt au niveau professionnel où, là, où j'ai trouvé à appliquer ce qu'on avait vécu au MLAC dans les années 70.
Bah, c'était bien ça.
Oui,
on était fortes, quoi.
Oui, voilà, enfin, exactement. On était
trop fortes, les filles, quoi. Moi, j'ai l'impression que demain, je peux... Non, t'as pas l'impression que t'as mémorisé les gestes.
Si quelqu'un me demande de lui montrer, je lui fais.
Arte.
Moi, je pourrais faire demain. Ouais, je pourrais le faire
vélo,
demain.
Quoi. Ça s'oublie pas.
Radio.
Voilà. C'est la pompe à vélo, c'est comme le vélo. Voilà. Bah, tu peux. C'est pas mal comme titre.
Ouais.
Comme le vélo, ça s'oublie pas.
Comme.
Mais c'est vrai. Ouais.
Au monde pour se voir toute la vie au cirque. Depuis que la terre est ronde, vous nous fourguez toutes vos reliques. Vos drapeaux ne vont pas avec la couleur du ciel. Ne nous inventez pas des paradis artificiels. Moi je revendique la libre circulation. Je veux la terre entière pour y planter ma maison. J'ai tous les droits pour moi et tous les gauches dans l'estomac. Le droit de l'homme, le droit de l'âme, moi qui suis une femme. Le droit de lumière et de terre, le droit de l'aimer et de faire l'amour. Comme ça me chante, comme ça me dit, comme vous, même le lundi, même à midi, avec n'importe qui. Le droit de vote, le droit de viol, moi qui suis une femme. Le droit de déchirer le voile, le droit de vouloir faire tomber le masque du mec d'en face qui en fait un max. Relax. Les soirs au grand carnaval, les télés mondiales. On n'est pas venu au monde pour se voir toute la vie au cirque. Depuis que la terre est ronde, vous nous fourguez toutes vos reliques. Vos drapeaux ne vont pas avec la couleur du ciel. Ne nous inventez pas des paradis artificiels. Pour moi, je revendique la libre circulation. Je veux la terre entière pour y planter ma maison. J'ai tous les droits pour moi et tous les gauches dans l'estomac. Droit de vous traiter de poire, moi qui suis une femme, vous les détenteurs du pouvoir, vous qui tapinez pour la gloire, l'histoire, et qui marchez toujours au pas, tout droit, dès qu'une étoile claque des doigts, cher petit soldat, le droit de vous traiter de con, moi qui suis une femme, car c'est mon sexe et c'est mon nom que vous lancez pour injurier. C'est bon, acheter, c'est terminé. Rapper, toujours l'obsession de maman et des vierges en blanc. On n'est pas venu au monde pour se voir toute la vie au cirque. Depuis que la terre est ronde, vous nous fourguez toutes vos reliques. Vos drapeaux ne vont pas avec la couleur du ciel. Ne nous inventez pas des paradis artificiels. Pour moi, je revendique la libre circulation. Je veux la terre entière pour y planter ma maison. J'ai tous les droits pour moi et tous les gauches dans l'estomac. Le droit de vous trouver débile, moi qui suis une femme, pour 2000 ans de votre style, entre l'église et la famille, les flics pour nous courber, pour nous faire taire, sorcières pour nous parquer dans vos vestiaires, vos lits de misère. Le droit de prendre la parole, moi qui suis une femme, pour vous renvoyer à l'école, sans idéal, sans auréole, tout nu, pour vous rappeler que le paradis perdu, c'est bien le fruit de nos entrailles. L'amour défendu, 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 l'amour défendu,
et rebonjour, rebonsoir plutôt à la causerie dimanche, il est 22h43 et vous venez d'entendre Annie Nobel qui a suivi le reportage qu'on a entendu avant sur le MLAC. Voilà, moi je suis vraiment friand d'avoir des retours si vous aimez bien qu'on passe ce genre de truc de temps en temps, voilà.
Parce que c'était super intéressant.
Ouais, non, voilà. Mais ouais, mais c'est pour dire, c'est un peu nouveau, donc on teste et puis on voit. Ouais. c'est à moi de parler, mais ça fait un peu con le mec qui se lance tout seul.
Oui, Fab, tu voulais nous parler d'un auteur.
On sent que t'as besoin de nous dire quelque chose.
Oui,
là, maintenant, tout de suite.
Oui, je voulais parler. moi, en fait, je voulais vous parler de, d'une saga qui écrit un auteur que beaucoup de gens connaissent.
Stéphane Berne.
Non,
ça y est, je l'ai dit, c'est bon, je suis content. Saga, Stéphane Berne.
Oui, c'était pas mal, mais non, c'est pas Stéphane Berne pour Saga. Non, c'est Maxime Chatham qui est assez connu.
Oui, voilà, et que c'est le frère d'Oliver Chatham.
Le frère d'Oliver Chatham.
Oui, un grand chanteur disco.
Si tu le dis. Alors, moi, je sais pas, je sais que Chatham, il est né en 76, donc je sais pas que.
Son fils, peut-être.
Donc c'est, comme je disais, Maxime Chatham, qui est un auteur de science-fiction et de policier assez connu en France. Il est criminologue de formation, mais il l'exerce plus depuis pas mal d'années maintenant, vu qu'il est. Romancier.
Mort, hein.
Non. C'était bien tenté, mais ça non plus. Il se fait rire tout seul, c'est génial.
J'y croyais vraiment.
Ça. Non. Donc en fait, il est surtout connu pour un truc qui s'appelle la trilogie du mal ou pour un deuxième cycle qui s'appelle le cycle de l'homme, qui ont beaucoup marqué parce que c'était la première fois qu'un auteur français écrivait de façon aussi noire du policier fantastique. Et voilà, mais ça a beaucoup marché. Alors il y a des gens qui disent que oui, il est facile dans l'écriture et que du coup, voilà. Moi, je tendance à dire qu'il aurait plutôt tendance à être parfois trop complexe dans ses circonvolutions, dans ses livres. Mais voilà, après, chacun trouve son équilibre. Mais moi, c'est un auteur que j'aime bien. Mais c'est pas du tout de sa partie science-fiction et policier dont je vais vous parler. Mais c'est de son essai dans un univers qu'il ne maîtrisait pas au départ et qui est la fantasy, on va dire ça comme ça, ou le steampunk, voilà, parce que c'est un univers qui se rencontre dans son livre. Et c'est dans la saga Autre Monde. Alors, Autre Monde, c'est une saga en 7 tomes. Il y en a 6 qui sont déjà parus. Le 7e devrait arriver à la fin de l'année, si tout se passe bien, parce que Maxime Chattam a l'habitude d'annoncer ses livres à l'avance et de dire ben, « je vais les sortir là, voilà ». Et c'est en fait un univers qui donc est féerique, on va dire, mais plutôt noir et sombre, parce que je crois que Maxime Chattam, il sait pas faire en fait un livre où il n'y a pas un peu de sombre et de, ouais, et de glauque, et voilà. Mais c'est assez accessible et c'est pas aussi sombre que ses autres livres, et surtout c'est une littérature qui va s'adresser aux gens à partir de 14 ans jusqu'à 104 ans, hein, ça c'est pas un problème. Voilà. C'est l'histoire en fait toute bête d'une sorte de révolution de la Terre. Alors c'est un petit peu New Age, ça c'est le petit côté qui m'a gêné un petit peu, mais ça c'est pas grave, où la Terre commence à dire j'en ai un peu plein le dos de ce qui se passe sur ma surface et dans mes océans, tout est pollué, tout est foutu en l'air, donc elle crée une espèce d'énorme, enfin on sait pas trop si c'est la Terre, mais on va dire que ça ressemble pas à ça, il y a une énorme tempête qui se lève sur le monde entier. Alors au départ on le sait pas parce que ça se situe à New York au départ, donc on sait pas trop si ça a touché le monde entier ou juste New York. Et cette tempête, et ben elle va faire fondre tout, enfin elle va détruire toute la civilisation. Et elle va faire fondre les voitures, disparaître les ordinateurs, ce qui pour un geek va être terrible, mais c'est pas tout ce qui se passe. Mais surtout, elle va éliminer une énorme partie de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître, ils vont se volatiliser en une nuit, et donc c'est une nuit de tempête. Il va rester sur Terre uniquement quelques enfants,
oh non,
quelques adultes, et des humains revenus à l'état sauvage. Alors, chez Chattam, en gros, ça donne, ce sont ce qu'ils appellent les pans. Les pans, c'est les enfants, en fait, qui, eux, ont gardé toute leur mémoire. Donc, c'est les seuls qui se souviennent d'avant la tempête. Donc, eux, ils se rappellent de tout, de leurs parents, de tout ce qu'ils ont vécu, de leur enfance, d'où ils étaient. Et c'est les seuls qui ont une mémoire intacte. Et en plus, ils vont développer des altérations, c'est-à-dire des sortes de pouvoirs, entre guillemets, qui vont de la super vitesse, arriver à courir un peu vite. C'est un peu le truc un peu super-héros. Mais ça va aussi, par exemple, à une capacité de réflexion supérieure à la moyenne, qui permet de se sortir de situation assez intéressante, mais chaque enfant a une altération qui lui est propre, voilà, et on découvre après dans le livre pourquoi et d'où ça vient. Voilà, il y a ça. Il y a ce qu'il appelle les cyniques. Alors les cyniques, c'est les adultes, mais eux, en fait, c'est ceux qui ont survécu, mais eux, ils n'ont plus de mémoire du tout. Ils sont hyper cyniques, d'où leur nom. Ils mettent en esclavage les enfants, parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont leurs enfants. Donc ils disent, bah après tout, on a de la main d'œuvre gratuite, donc comme faut reconstruire, ils mettent en esclavage les enfants, c'est les plus faibles, donc c'est plus pratique. Ils créent même des systèmes pour les asservir totalement, avec des choses assez cyniques au sens premier du terme, et assez violentes. Et en fait, eux, ils vont essayer de reconstruire des cités à l'identique de ce qu'il y avait avant la tempête. Donc, c'est-à-dire des grandes cités avec des chefs en haut, et puis des voilà, une sorte de production très très large. Enfin, ils essayent de reproduire un monde qui n'existe plus, mais bah, un peu façon steampunk, parce que c'est un mélange entre médiéval, fin du 19e siècle, avec la machine à vapeur et compagnie, et puis un petit peu de modernité, mais pas vraiment au sens où on l'entend réellement aujourd'hui. Et puis, ben, il reste les gloutons. Donc là, les gloutons, c'est des humains qui sont retombés à l'état dit sauvage, mais au sens premier du terme. C'est qu'en fait, ils reviennent à une espèce, ces espèces d'hommes de Cro-Magnon, mais qui ressembleraient à un gros flamby. C'est-à-dire que, non, mais je sais pas comment décrire ça.
Ils peuvent être élus, alors.
Voilà, exactement. Mais en gros, c'est des humains qui, eux, ont perdu toute la mémoire comme les cyniques, mais qui, en plus, eux, sont vraiment très basiques. C'est manger, tuer.
Voilà, les
en
désirs
gros,
un peu primaires.
Voilà, et baiser, bien sûr, parce qu'il y a aussi ce truc-là qui vient se mettre par-dessus. Donc voilà, c'est un univers hyper intéressant qui donc se fait en 2 cycles plus un livre qui va revenir regrouper les 2 cycles. Donc le premier cycle qui est autour du Nouveau Monde, ça c'est les 3 premiers tomes. Le deuxième cycle qui va être un cycle d'exploration pure du monde entier, ça c'est les 3 derniers tomes, ceux qui viennent de sortir. Et le 7e livre sera la clé de voûte entre les 2 cycles. Ce qui Emma va mourir, je pense. C'est le mot cycle.
J'ai éteint son micro, c'est bien fait pour sa gueule.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, on démarre dans cet univers avec trois personnages principaux qui sont Matt, Tobias et Ambre. Et Matt, Tobias et Ambre, ils ont 14, 13 et 15 ans. Et ça a son importance parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans Autre Monde, c'est pas forcément justement le côté fantasy, tout ça, même si c'est très bien écrit et que c'est super intéressant. C'est toutes les questions que met Maxime Chatham derrière et qui, justement, sont intéressantes. Donc, en fait, ces livres, c'est des livres de quête, mais au sens large du terme. Et là, on va être dans la quête, en fait, d'adolescents qui vont devenir adultes. Et comme je vous l'ai expliqué, les adultes, l'image qu'ils en ont, c'est pas des gens très sympas. Donc c'est comment est-ce que quand je suis ado, je me dis, tiens, je vais devenir comme les gens en face qui exploitent mes copains, qui veulent m'attraper pour me faire bosser comme un taré, et qui sont prêts à aller jusqu'à me tuer ou me recycler pour récupérer mon altération.
Ouais, vous voyez, c'est la figure de référence.
Voilà, donc c'est super intéressant parce que du coup, par cet univers-là, Chatham, il interroge y compris ce que c'est que d'être un adolescent et un enfant dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne une image réellement positive aux enfants est-ce qu'ils ont vraiment envie de devenir adultes? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le long du livre, en fait, tout le long des livres, il va poser des jalons dans la vie des différents héros. Alors, ça va aller au départ de s'interroger de comment je fais pour vivre sans mes parents? Parce qu'en fait, d'un seul coup, leurs parents ont disparu. Donc, comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je me réorganise? Et Chatham, il dit, si vous mettez des enfants ensemble, même s'il va y avoir des tensions, même s'ils sont pas parfaits, même s'ils sont comme tout individu, ils ont leurs faiblesses et ils ont leurs forces, ils ont plutôt tendance à jouer l'entraide que de jouer la compétition. Et c'est ce que lui, il observait. Il a lu beaucoup sur ce sujet-là. Et donc, il crée une société où les enfants entre eux, ils ont plutôt tendance à aller vers l'entraide. Ils créent une cité où tout le monde s'entraide, où on laisse pas les copains mourir de faim, où on essaye d'être présent pour le peu d'enfants qui restent. D'ailleurs, dans le livre, il y a que les enfants qui se rendent compte qu'ils sont plus beaucoup. C'est-à-dire que les cyniques, les adultes, eux, ils ont l'impression que ça continue comme avant. Alors que les enfants, ils disent, mais non, on doit être encore quelques milliers à survivre, là, et on va pas se bouffer et se tuer, quoi. Et c'est très intéressant de voir justement ce rapport à l'entraide et ce rapport à la société qu'ils créent. Et d'ailleurs, les enfants créent une société sans chef. C'est très intéressant parce qu'il part du principe que quand il y a un chef, ça donne ce que les adultes deviennent. Donc c'est plutôt sympa.
Oui, je voulais intervenir instant propagande. Je sais pas comment dire, l'aspect intéressant dans l'enfance, c'est que on n'est pas prédisposé justement aux catégories, aux discriminations, tout ça. On n'a pas instinctivement l'idée d'aller s'accaparer le territoire ou le jouet ou le machin d'un autre. Et en fait, tout ça pour dire qu'à la base, on est tous antispécistes.
Tout ça pour dire alors, c'est pas tout à fait vrai dans le bouquin, je peux te le dire tout de suite.
Mais dans la vraie vie, oui,
les enfants ne sont pas si innocents que ça.
Oui, mais c'est ce que j'allais y venir, c'est que Chatham, il tombe pas non plus dans le manichéisme de base qui serait que tous les enfants seraient merveilleux, tous les adultes seraient des salauds, parce que justement, dans son livre, c'est plus nuancé, il montre qu'il y a aussi des enfants un peu pervers, un peu fous, comme tous les individus de la planète, et que c'est pas parce qu'un enfant existe qu'il est forcément exempt de réflexion de dérive comme ils disent dans le livre, parce qu'en fait les enfants ils arrivent pas à dire qu'il fait du mal, parce que pour eux au départ ils disent les enfants ils sont tous gentils, parce qu'ils partent de ce principe là puis d'un seul coup ils se rendent compte qu'il y en a qui dérivent. Alors c'est le mot qu'ils emploient parce qu'ils osent pas, et je trouve ça assez bien de jouer de la part de Chatham, parce que justement il dit non, une société idéale ça existe pas, il y a une société mieux mais il y a pas de société où rien ne se passe. Et ce qui est intéressant aussi dans son bouquin, c'est justement le rapport à la technologie et le rapport qu'il met derrière au fait que les adultes sont avant tout, les personnes puissantes le sont avant tout parce qu'elles maîtrisent la technologie. Et il y a une réelle interrogation dans son livre, même sur les rapports nord-sud. C'est intéressant parce qu'il le voyait peut-être pas comme ça au départ, mais quand on lit son livre, ça ressort assez vite. C'est-à-dire qu'il explique en gros que il y a les États-Unis, l'Europe, et puis il y a le reste du monde, quoi. Et le Japon, on va dire. Et il y a le reste du monde. Et que du coup, après une tempête comme ça, ça remet les cartes à plat. Et finalement, c'est plus du tout le même monde. Parce que, il n'y a plus la maîtrise de la technologie. Il faut savoir que la tempête, elle efface, par exemple, toutes les armes. Donc, déjà, on part au départ, il n'y a plus de bombes atomiques, il n'y a plus rien. Enfin, c'est très, c'est philosophique et puis c'est fantastique. Mais c'est assez intéressant comme base de départ. Et puis, ce qui est marrant aussi, c'est que les enfants, ils sont plutôt matérialistes. là où les adultes sont extrêmement croyants. Et ça, c'est très drôle parce que dans le bouquin, en fait, il explique ça, enfin, on comprend ça par la peur de la mort. En fait, c'est juste le truc, c'est quand on vieillit, on a tendance à se rapprocher de la croyance plutôt que quand on est enfant où on a l'impression d'être immortel et d'être d'un truc. Sauf que le truc, c'est comme ils veulent pas grandir comme les adultes, bah eux, ils développent une société qui est différente de celle des adultes, mmh. où justement on ne vénère pas un chef, où on ne vénère pas un pseudo-dieu qui s'est autoproclamé, parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui apparaissent. Voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est super bien étudié, surtout c'est fait dans une logique d'aventure, parce que on suit leur aventure, on suit leur quête, mais en même temps de pause réflexive dans le livre. Et ça, je trouve ça super cool. C'est-à-dire de prendre le temps de prendre deux ou trois chapitres au milieu du bouquin pour rentrer dans les états d'âme des héros et puis aller un petit peu un peu plus loin que de dire ouais il sort son épée, il va s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vachement intéressant. Donc voilà, moi je voulais vous présenter ça parce que je trouve que c'est toujours bien de parler de bouquins sociaux, de machin et tout, mais que des fois les gens ça les emmerde un peu et ça je veux bien l'entendre, et je me suis dit que c'était l'occasion de dire qu'on pouvait aussi dans la littérature fantastique et dans la fantasy en particulier trouver des dérivatifs en fait pour parler aussi de sujets qui sont intéressants, et notamment le sujet du passage à l'âge adulte, de l'enfance, de la sexualité, parce que c'est un rôle un peu central dans le livre, parce que pour les enfants, devenir adulte, c'est avoir une sexualité, et c'est très intéressant de voir le rapport justement qu'ils ont, est-ce que oui, non, est-ce que j'ai le droit d'être amoureux, est-ce que j'ai pas le droit, pourquoi est-ce que quand je suis à côté de telle personne, je ressens ça, vous voyez, c'est assez intéressant, et tout ça, c'est mis dans un livre qui est, enfin, une saga qui est vraiment de qualité. Il y a qu'un seul tome que j'ai pas trop digéré, que j'ai pas trouvé très bon, je vous le dis, c'est le cinquième. Voilà, parce que je l'ai trouvé qui est un peu répétitif, mais après le reste, je trouve que voilà, arriver à faire un truc comme ça cohérent, où on suit vraiment l'évolution de gamins sur plusieurs années, et où vraiment on suit donc ces interrogations liées à l'enfance et à l'adolescence, et tout ça dans un livre de fantasy, c'est vachement cool. Donc voilà, donc ça s'appelle Autre Monde, c'est Maxime Chatham qui écrit ça, c'est chez Albin Michel ou Le Livre de Poche, je crois, le Republic, si ma mémoire est bonne. Voilà, et ça se trouve assez facilement, donc je vous le conseille.
D'accord.
Voilà, les parents, j'aime lire.
Je sais pas. Mais si vous avez des questions, je peux y répondre.
Raconter comme ça, et l'enrobage et tout, on a envie de... Ouais, ça donne envie de le lire.
Bah, tant mieux, c'était le but. Ouais.
Voilà, fantasy, c'est pas très sexy. En général,
j'imagine. Mais si, c'est sexy. J'imagine
pas un lecteur sexy de fantasy, moi.
Ah, je te. Ça, mais ouais.
C'est pas très gentil pour nous, quoi.
Mais il y a plein d'hommes qui lisent la fantasy torse nu dans leur lit et tout ça. Faut arrêter.
Voilà.
Ben, pour ceux que ça intéresse, les hommes d'ailleurs. Ceux que les hommes intéressent, la syntaxe. On va mettre de la musique, ça ira mieux, je pense.
Allez, c'est parti.
Allez, aux consoles.
Fire.
puis voilà, c'est tout.
C'est sinon, toujours la c'est toujours la causerie. C'est toujours dimanche et il est 23h, donc on commence à dépasser, c'est normal. C'est toujours sur Radio Canu 102.2, hein, donc voilà, vous êtes bien là. Ouais. Et comme il n'y a pas de streaming, on ne peut pas dire aux gens qui sont loin « Ouais, salut, c'est nous !» Parce qu'en fait, il n'y a que Lyon qui nous entend là. Donc on fait avec. C'était... Oui, j'ai oublié de dire le titre, voilà, c'est ça le truc.
C'était
Paradise, What About Us. J'ai un anglais de merde. De Within Temptation et Taria. Voilà. Et Louli, tu voulais parler d'une loi qui vient de passer.
Oui, alors je ne l'ai pas encore lu parce que ça me gonfle d'avance. Le statut de l'animal, donc... On commence à reconnaître une éventuelle sensibilité de l'animal et tout, du non-humain, en tout cas comme il faudrait l'appeler. Et je suppose que ça va être, en tant qu'antispéciste, que ça va être encore une loi qui ne sert à rien. Mais il y a déjà le syndicat des agriculteurs.
La FNSEA.
Voilà, ouais, je ne connais pas, j'ai pas de mémoire pour les sigles. Le syndicat, donc FNSEA, ils sont déjà en effervescence et tout, ils ont peur parce que la loi, elle est un peu floue en fait. Enfin, tout ce qui gravite autour, c'est à partir du moment où on va dire que le non-humain est sensible, ça s'applique aussi bien aux droits civils qu'aux droits appliqués dans l'agriculture, en fait, dans l'industrie agroalimentaire. Et du coup, ça devrait en théorie soulever tellement de choses que ça ne soulèvera pas parce que l'industrie agroalimentaire est bien trop puissante. Et du coup, ça va être un truc qui sert à rien. Mais ceci dit, je développerai tout ça la semaine prochaine parce qu'il y a déjà les animaux ont déjà des droits en fait.
Teaser.
Ouais, teaser. C'est beau.
Au niveau européen, en tout cas, ils ont déjà des droits qu'on n'applique pas du tout.
Mais comme beaucoup de trucs au niveau européen.
Ouais, voilà.
moi, je vais vous parler, je vais vous inviter à aller le 29 avril, donc je sais plus quand c'est le 29, ça doit être mardi, c'est ça?
C'est ça.
J'ai
peut-être.
Bon oui. C'est ça. Merci Clara. Donc le mardi 29 avril à 19h à la Lutine, c'est dans le 7e, il y a une réunion du collectif TCL libre et gratuit. Donc ça rejoint un des sujets qu'avait fait Louli.
Sujet d'1h30.
Et donc c'est un collectif qui, vous pouvez aller voir sur Rebellion, ils ont fait une présentation de ce qu'ils prônent. Et en fait ils expliquent que on passe des millions d'euros à combattre la fraude et que si on mettait les transports gratuits au lieu de se faire chier à passer des millions d'euros pour la fraude, on résoudrait bien des problèmes.
Puis on imagine aussi les enveloppes qui voyagent un peu, hein, parmi ces millions d'euros pour...
Oui, exactement, ça c'est clair. Et en plus, ils ont un angle d'attaque que je trouve très intéressant, qui est celui de dire, en gros, qu'on ne peut pas faire de cohésion d'une ville si les gens ne peuvent pas se déplacer de la même façon. C'est un peu ce que tu avais soulevé, Louli.
Le droit à la mobilité.
Voilà.
Mais je vais y aller, je vais leur faire un speech, hein, je vais leur dire, Tallinn en Estonie, personne n'est mort de faim.
Mais je pense que eux ils savent, hein. C'est plus au TCL qu'il faut faire le speech. Mais par contre voilà, donc c'est mardi soir, donc 29 avril à 19h à la Lutine, et c'est ouvert à tous, donc si le sujet vous intéresse, ils ont besoin de bras, donc voilà, allez-y. Mais c'est tout ce que j'avais à dire.
D'accord.
Voilà. On fait quoi? On se dit au revoir.
On se dit au revoir.
Ouais,
finalement.
Ouais,
c'est la fin de l'émission.
Merci. Alors.
Oh, merci.
C'est pas Raël.
N'importe quoi.
Non, mais ouais,
ça va pas.
Merci la vie.
Non, mais par contre, t'as amené un titre pour finir, si tu pouvais nous dire
oui,
qui c'est.
Mais je me rappelle plus de l'ordre de l'émission, du coup.
Mais si c'est.
Si c'est là, on se dit au revoir, après on met le titre.
Oui, c'est ça, et puis après on s'en va.
Voilà. Tu sais, disons au revoir.
Mais non, oui.
On remercie notre public, toujours plus
merci,
nombreux.
Merci à tous.
Ouais, on est le public. On vous aime, surtout Louli.
Et puis, juste quand même, comme t'es là, Nas, à bientôt sur les ondes de Canu.
À très très bientôt.
Normalement, si je me souviens bien, c'était le samedi, c'est ça que tu visiez? Voilà, on verra ça.
Ouais, c'est ça, le samedi normalement, ouais.
Alors attention, amis auditeurs.
Ouais, le samedi à l'heure de l'apéro. Écoutez, à peu près.
Voilà, il y aura Nas bientôt avec ses amis, ça va être trop bien.
Le samedi.
Et vous avez un nom ou pas d'émission?
Les Watford.
Non, on est toujours en réflexion là, très bientôt.
Donc il n'y a pas de nom. Vous aurez le nom.
L'émission sans nom
qui arrive.
Les
bon, c'est cool. Bonne semaine.
Anonymous, ça, non, c'est déjà pris.
Oui, ça va être un peu prétentieux. bonne semaine à tous, en tout cas, amis auditeurs et auditrices.
Oui,
et puis, il va quand même nous dire le titre pour avant le lancer.
Le titre, oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. On va écouter Robin.
Ouais!
Mon amie suédoise, avec Konnichiwa Bitches. La version non censurée, évidemment.
Bah oui.
Normalement, ouais.
Qui dit « Je suis tellement hot que quand je cambriole ta maison, c'est pas les flics que t'appelles, c'est les pompiers. » Voilà.
Eh ben, allez, bonne semaine.
Bonjour, salut. À la vie partie, j'ai envie de dire. Au revoir, à bientôt. Inch'Allah.
Wanna rumble in my jungle? I'll take you on. Stampede your rumba and send you home. You wanna rumble in space? I put my laser on stun. And on the North Pole, I'll ice you, son. You wanna thriller in Manila? You'll be killer, be stung. Wanna taste the vanilla? Better watch your tongue. Cause I'll hammer your toe like a pediatrician. Saw you in half like I'm a magician. Tear you down like I'm in demolition. Count you out like a mathematician. I'm so very hot that when I rob your mansion, you ain't call the cops, you call the fire station. Cause my food is so sweet, you be zoom, zoom, zoom. Don't even get me started on my bada boom booms. One left, one right, that's how I organize them. You know I fill my cups, no need to supersize them. Right now you probably thinking how she getting them jeans. Well, I'm gifted all natural and bursting the seams. Connect you up. Connect you up. Don't I look tasty like a French bonbon? Even more sweeter than a cherry bomb. Coming with the postman like I'm a mail bomb. Coming in your mouth, make you say yum yum. Hit the gong gong, bring the sumos on. I'ma kick ass all the way to Hong Kong. Like a game of ping pong. Konnichiwa bitches from Beijing to Saigon. Got nothing on, cause you know you's a bum. Dumb, diddy, dumb, diddy, diddy, dumb, dumb. Check the scenario, I'ma bust your eardrum. And leave your head ringing with the ring-a-ding-dong. Busy on the mic since the day I was what?
Born.
Check out my style, is the rock of what?
Mo.
Shine is on me like a dog on a what?
Boom.
Fight. Put myself on the throne. You know when shit is getting heavy like it weighs a ton. I will run you down like a marathon. Tape you up good, put you in the trunk. See you next Tuesday, you is a punk.